BFM Business, Intégral Placement, l'œil du stratège.
Et oui, on se reconnecte au marché dans Intégral Placement avec notre stratège, Rachid Medjaoui. Bonjour Rachid.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de la gestion de la Banque Postale Asset Management. Eh, les marchés progressent encore. Le CAC 40 gagne encore 0,7%. On avait gagné hier plus d'un et demi. Comment expliquez-vous ce rebond actuel des marchés européens ?
Écoutez, on a toujours interprété ce qui s'était passé sur la période d'octobre comme une consolidation. On commence à avoir un certain nombre de réponses plutôt favorables à des questions, et notamment des questions concernant la croissance dans les pays émergents, et en particulier en Chine, qui révèlent plutôt des bonnes surprises.
Ah, d'après vous, il y a un retour de l'optimisme sur la croissance des pays émergents ?
En tout cas, l'optimisme n'est pas encore éclatant, mais en tout cas, selon nous, les indicateurs qui tombent maintenant depuis la fin septembre montrent pour nous très clairement que le ralentissement qu'on avait eu au cours de l'été est un ralentissement transitoire, cyclique, et que devant nous, il faut plutôt envisager une réaccélération, certes pas foudroyante, mais plutôt une accélération qu'un atterrissage en catastrophe des économies émergentes, et en particulier de la Chine.
Par exemple, vous ne craignez plus de hard landing en Chine ?
Clairement non. Quand on analyse un peu les chiffres qui tombent, je vous le disais, ça confirme l'idée que c'était un ralentissement en grande partie lié à un fort mouvement de déstockage, que la demande mondiale, certes, n'est pas excellente, mais que les choses semblent se stabiliser. Bon, maintenant, je disais, la reprise ne sera pas foudroyante parce que les facteurs de risque, on les connaît. Potentiellement, ça peut faire très mal. Crise en zone euro, fiscal cliff aux États-Unis. Donc, il faut rester prudent. Mais la direction, me semble-t-il, est meilleure qu'elle l'était il y a encore un ou deux mois.
Oui, et apparemment, on a encore eu de bonnes statistiques aujourd'hui, cette fois pour la Corée du Sud. Hein, c'est absolument ce que nous disent nos experts présents en Asie. Donc, les marchés progressent, plus 0,6 encore sur le CAC 40. Est-ce qu'on est aussi soulagé de la situation européenne avec ce marché obligataire qui semble durablement stabilisé, le 10 ans espagnol ce matin à 5,6%. C'est un autre facteur de confiance, cette durabilité de la stabilisation des taux ?
Absolument, c'est une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire, qui prouve qu'effectivement on avance dans la bonne direction, je dirais, sur cette crise en zone euro. Maintenant, tout ça est extrêmement fragile, puisque on n'a toujours pas, notamment à court terme, le catalyseur qui serait globalement une bonne nouvelle, l'Espagne qui finalement accepterait, je dirais, d'appeler au secours. Ouais. Cela étant, ça prouve que les décisions qui sont prises depuis plusieurs mois vont dans le bon sens. Et puis, il y a des éléments peut-être qui ne sont pas assez soulignés. Ce matin, on a par exemple le retour d'une émission obligataire d'un émetteur d'un pays sous perfusion, le Portugal, une banque qui revient sur les marchés en émettant une obligation. Ça ne s'est pas vu depuis pratiquement deux ans. Et ça montre, il faut rester prudent, mais ça montre que graduellement, les choses sont en train de se réparer, en tout cas sur le plan du circuit financier.
Oui, il reste quand même l'épine grecque. Clairement, la Grèce va encore devoir concéder 13,5 milliards d'euros d'économies pour obtenir les aides européennes et du FMI. Bon, la Grèce, est-ce que sa meilleure solution, ce ne serait pas de sortir de la zone euro, tout simplement ?
Écoutez, on a changé d'avis, nous, au cours du temps, et on peut encore changer, mais depuis maintenant quelques mois, notre sentiment, en écoutant les décideurs politiques de la zone euro, c'est finalement de dire, on sait très bien ce que peut coûter de maintenir la Grèce, en zone euro, c'est ces fameux 300 milliards de dettes plutôt publiques. Oui. Donc il faudra passer d'une manière ou d'une autre par un reprofilage. En revanche, on ne sait pas très bien ce que ça pourrait coûter si la Grèce sort, avec notamment les effets de contagion, et donc il semble qu'on s'achemine vers une solution, certes médiocre, oui, mais qui consiste à garder coûte que coûte la Grèce en zone euro.
Oui, mais dans ce cas-là, restructurons tout de suite sa dette, arrêtons de perdre du temps et de l'argent, parce que le temps, c'est de l'argent dans ce dossier.
Oui, sauf que il y a l'agenda politique. Hein. Je crois que nous, financiers, bien sûr, on a notre sentiment, mais l'agenda politique, c'est les élections notamment allemandes. C'est aussi éviter, notamment Mme Merkel, de passer plusieurs fois devant le Parlement allemand pour à chaque fois redemander. Donc on attend peut-être un package un peu plus global qui concernerait au-delà de la Grèce, d'autres pays en Europe et en zone euro. Oui.
Si on sort de ces grandes considérations macro et qu'on revient un petit peu plus concrètement sur les résultats d'entreprise, puisque la saison bat son plein, aujourd'hui on a quelques bonnes surprises, notamment du côté d'Air France KLM.
Oui, alors globalement ça s'inscrit un peu dans la tendance. Que si vous regardez depuis le début des publications, c'est ni catastrophique ni très bon. C'est plutôt, alors quand on regarde les statistiques, on est au-dessus plutôt des attentes. À 50% en moyenne des entreprises battent le consensus.
Vous parlez des entreprises européennes.
Européennes, je m'entends. Cela étant, 50% c'est pas très bon, parce qu'historiquement on est plutôt à des pourcentages de 60%. Les attentes avaient été relativement abaissées avant cette publication. Donc Oui, je crois
que c'est écart d'une petite dizaine de points. En plus, on la retrouve sur les Américains, qui sont plutôt vers les 60, alors que d'habitude, ils sont plutôt vers les 70.
Absolument. Donc, ça confirme bien que du point de vue micro, les choses restent extrêmement tendues. Nous, nous attendons encore à des réductions des perspectives bénéficiaires. Nous pensons que ce qui est attendu par les analystes pour 2013 est un peu trop optimiste, notamment en Europe. Cela étant, le marché a en partie intégré ce genre de résultats. Et donc, ce qui va être important pour les sociétés, c'est de voir si l'environnement global, notamment, je disais tout à l'heure, de ce qui se passe dans les émergents et en Asie, a plutôt un momentum positif ou au contraire, est-ce que fiscal cliff, crise en zone euro, ne vont pas casser ce miracle un peu des bénéfices qui, somme toute, en masse reste plutôt correct par rapport quand même aux défis et à la croissance mondiale qui a été très attaquée.
Ouais, ce sont les chiffres d'affaires qui souffrent le plus.
Absolument, donc en ligne avec le ralentissement macroéconomique, absolument.
Cédric, vous parlez d'Air France KLM, le titre gagne 7,5% après sa publication, des résultats assez largement au-dessus des attentes. Peut-être les premiers fruits du plan de restructuration, ça vous donne envie d'acheter cette valeur ?
Écoutez, nous dans notre on est clairement nos équipes de gestion donc aujourd'hui sont sur des valeurs liées à l'aviation civile, mais on n'est pas vraiment sur cette valeur. On est sur d'autres valeurs. Encore une fois, il y a eu une bonne surprise notamment de Lufthansa qui est liée plutôt à une bonne surprise sur la couverture pour l'approvisionnement en kérosène. Donc oui, il y a des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Oui. Ce qu'on sait, c'est que le marché. En revanche, on voit bien que le marché sanctionne très positivement, très négativement, en fonction de ces résultats.
Et aujourd'hui, c'est positivement. On est content pour Air France KLM et pour Lufthansa, qui progresse aussi à Francfort, plus 7% pour Lufthansa. Wall Street va rouvrir tout à l'heure. Après deux jours de fermeture, vous attendez un impact sur les marchés tout à l'heure, sur les volumes et peut-être même sur la psychologie du marché ?
Bon, c'est très compliqué. Hein. Alors tout le monde ressort les histoires d'après ouragan. Et ce que montre l'histoire, c'est que 3 ou 6 mois après, les marchés sont plutôt en hausse, en général qu'en baisse. Vous voyez, Standard & Poor's a sorti une étude il y a 2-3 jours montrant ce type de phénomène. Bon, il faut faire très attention parce que tout ça arrive dans un contexte où l'économie américaine, même si elle semble se reprendre, reste extrêmement fragile. Bon. Tout ça reste quand même devrait peser sur le quatrième trimestre en termes de croissance économique, mais les choses devraient quand même plutôt repartir. L'élément important, c'est plutôt le fiscal cliff et les élections américaines que, je dirais, cet ouragan.
Justement, quel scénario post-élection à la Banque Postale Asset Management? Certains, et même de plus en plus d'observateurs, nous disent, attention, le nom du président, il importera peu. Ce qui compte, ça va être la majorité, ça va être ce qui va se passer du côté du Congrès, cette fameuse falaise fiscale, oui. Le nom du locataire de la Maison-Blanche.
Alors, on n'est pas complètement d'accord avec cette analyse. Le nom va importer et aujourd'hui, même s'il faut faire très attention, on voit bien que si c'est le républicain qui l'emporte, on a l'impression que les marchés actions vont plutôt le saluer. Et si c'est le président Obama qui reste en place, c'est plutôt l'obligataire qui risque de surperformer. Mais au-delà de ça, vous avez raison, ce qui est important, pour nous, le dénouement, c'est, en scénario central, c'est de penser qu'on va éviter ce fiscal cliff in fine. Je crois que les politiques américains se rappelle un peu de ce feuilleton catastrophique l'année dernière qui avait débouché sur une baisse du rating des États-Unis. En revanche, ce qui risque d'être extrêmement compliqué, c'est que, vous le savez, après l'élection du 6 novembre, il y a une période de no man's land, de passation de pouvoir, de pratiquement 2 mois et demi. Donc, durant cette période, les tractations vont être intenses. Et là, on peut, par moment, effectivement, avoir des très, très mauvaises nouvelles ou penser que ça va finalement avoir un blocage économique qui va se traduire par une récession. Donc, c'est plutôt ça qu'il va falloir gérer, plutôt que le dénouement où on estime que, finalement, il devrait, à terme, plutôt se mettre d'accord.
Et justement, comment on bâtit dans ce contexte très incertain, une allocation. Comment vous, en tant que gérant, arbitrez-vous vos portefeuilles là en ce moment ?
Absolument. Bah écoutez, nous, on a renforcé un peu les éléments qu'on avait mis en place depuis un certain temps, qui est de privilégier en termes d'allocation géographique l'Europe et l'euro. On considère que c'est là où le potentiel, si on a raison, d'amélioration est le plus important. C'est pas aux États-Unis. On renforce nos positions sur les émergents en ligne avec le discours que je viens de vous tenir. Et puis, on revient sur le Japon parce que la décision de la Banque centrale du Japon, même si ce n'est pas non plus une surprise extraordinaire, renforce, on a tort pour le moment, mais renforce notre sentiment que le yen devrait finir par accuser le coup. Et si c'est le cas, c'est un boulevard pour la bourse japonaise.
C'est quand même une sacrée fuite en avant. La bourse du Japon, la banque du Japon qui n'arrête pas d'intervenir pour essayer de relancer l'économie, ça prouve que c'est quand même assez inefficace jusqu'ici. Si elle doit multiplier les actions, c'est que chaque action est inefficace.
Oui, mais il faut regarder ça toujours souvent en relatif. La banque du Japon fait beaucoup moins que les grandes banques centrales depuis le début de cette crise. Et là, notre sentiment, mais il faut rester prudent parce qu'elle n'a pas fait grand-chose, somme toute, hein, 10 trillions, c'était attendu, c'est le fait qu'elle ait publié un rapport commun avec le ministère des Finances, qu'il va y avoir un changement de Premier ministre, qu'il va y avoir un changement du patron de la Banque centrale du Japon. Et tout ça, encore une fois, doit peser sur le yen. Et beaucoup d'entreprises, vous l'avez certainement vu dans les résultats, beaucoup d'entreprises japonaises soulignent quand même l'handicap majeur que constitue cette force du yen. Donc à l'inverse, si le yen baisse, c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle.
Ce matin, la bourse de Tokyo a progressé. Et oui, Tokyo a gagné 1%. Merci beaucoup Rachid Medjaoui, directeur adjoint de la gestion de la Banque Postale Asset Management.
Et on s'intéresse à présent au marché obligataire. On est en duplex avec Abbas Bemboubker. Bonjour Abbas.
Bonjour.
Chez Oxfield Partners, un petit mot de l'ambiance ce matin et peut-être plus singulièrement de l'ambiance sur le taux français puisque le Trésor s'est présenté ce matin et l'émission est plutôt un succès.
Oui, un marché obligataire assez calme ce matin avec une bonne performance des obligations périphériques. On voit un resserrement des spreads italiens, espagnols, notamment après la bonne adjudication italienne hier. Et on voit aussi un resserrement du spread français. On a eu une adjudication de ce matin de 7,5 milliards d'obligations longues qui s'est plutôt bien passée. On a eu une bonne demande sur des taux d'intérêt tout à fait convenables, sur des niveaux de marché intéressants. Ce qu'il faut noter, c'est que le spread français s'est dégradé d'une dizaine de points de base depuis le début de la semaine et depuis la semaine dernière. Et donc effectivement, cette dégradation a été attractive pour les investisseurs qui ont massivement bidé les obligations françaises.
Demander, hein, donc des obligations françaises pour le mot bidé en bon français dans le texte. Un petit mot de la Grèce et de l'Espagne. Alors d'abord du côté espagnol avec ce déficit central qui continue de rester tout de même à des niveaux très élevés, supérieurs en tout cas en 2012 plutôt qu'en 2011. Votre sentiment sur ce cas espagnol? On parle de plus en plus de la demande d'aide, peut-être du côté du 12.
Voilà, c'est une rumeur persistante d'une demande d'aide. Nous, on l'a déjà exprimé notre point de vue là-dessus. Effectivement, l'Espagne finira par demander de l'aide. Maintenant, c'est juste une question de timing. Pour ces rumeurs, il y a une possibilité pour l'Eurogroupe du 12 novembre. Maintenant, quand on voit les différentes déclarations, que ce soit du côté allemand ou côté espagnol, ce n'est pas encore acquis. Côté déficit, on a eu ce matin des déclarations de la ministre des Finances espagnole globalement, l'Espagne devrait être sur son target de déficit pour ce qu'il s'agit du gouvernement central. Il se rend à 4% de déficit. Maintenant, il faut ajouter à ça le déficit des régions qui risque d'être assez élevé et les deux banques, ce qui fera que, in fine, le déficit espagnol sortira autour de 7,5 contre 6,3 attendu. Oui. Mais ce qui est intéressant et ce qui représente l'effort du gouvernement au niveau du plan d'austérité, c'est le déficit du gouvernement central. Mmh. Et donc celui-là, il sera bien sur les objectifs fixés par le gouvernement espagnol et par l'Europe.
Voilà donc pour cette question espagnole. Un petit mot de la Grèce aussi, puisque on a l'impression, par certains côtés, que la situation avance, puisqu'il y a cet accord avec la Troïka, mais maintenant, il va falloir que Samaras trouve une majorité pour approuver tout ça. Vous tablez plutôt quoi? Sur une sortie positive ou sur une issue négative?
Nous restons assez optimistes sur le dénouement de ce cas grec. On pense que le gouvernement et le Parlement ratifiera l'ensemble des mesures de coupes budgétaires demandées par les Européens. On est dans une phase de négociation, donc c'est normal qu'on ait un petit peu des déclarations un peu plus, on va dire, moins flexible, mais globalement on pense qu'on aura un dénouement positif. Maintenant, le cas grec a été dilué dans un environnement européen très compliqué. compliqué. Maintenant, il s'agit de pays de taille plus importante. On a eu l'Espagne, l'Italie. Maintenant, ce qui nous inquiète encore le plus, c'est l'économie française. Et donc, ce cas grec ou cet impact de cette crise qui était grecque à la base se dilue de plus en plus dans un problème, dans une problématique plus européenne et plus fondamentale et économique.
Actuellement, la bourse d'Athènes gagne un petit peu plus de 2%. Un dernier mot, Abbas, sur ce changement majeur qui aura lieu demain. Sur le marché des CDS, on ne pourra plus utiliser les CDS à nu en Europe. On ne pourra plus, en gros, s'assurer sur des produits qu'on ne détient pas, en tout cas pour ce qui concerne les dettes souveraines. C'est supposé réduire la spéculation sur les dettes souveraines. Est-ce qu'à votre avis, cette mesure sera efficace et atteindra ses objectifs ?
En effet, il y aura l'entrée en vigueur de cette directive qui interdit l'achat de CDS à nu. Maintenant, on voit effectivement depuis quelques semaines une baisse de volume assez importante sur ce marché-là, spécifiquement le marché des CDS souverains. Maintenant, est-ce que ça va réduire la spéculation contre les dettes souveraines ? Nous, on le pense pas. Il y a un marché futur sur les principaux marchés de bonds, d'obligations européennes, notamment la France, l'Espagne, l'Italie. Donc, on peut toujours vendre des futurs et donc spéculer contre de la dette de ces pays-là. Deuxième point, il y a des actifs CDS très corrélés aux CDS gouvernementaux, qui sont les CDS sur les banques des pays. Et donc, on peut toujours imaginer de la spéculation à travers l'achat de CDS sur les principales banques des pays pour spéculer contre la dette du gouvernement. Donc, en quelque sorte, ça réduit un petit peu la spéculation, mais il y en aura toujours.
Oui, bon, ça ne met pas un terme aux dérives. Merci beaucoup, en tout cas, Abbas Benboubker, depuis Oxfield Partners.
Le CAC 40 progresse toujours, on gagne 0,8%.
BFM Business, intégral placement, met les points sur les i.
Et oui, on met les points sur les i comme chaque mercredi avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe.
Bonjour Guillaume, bonjour Cédric.
Bonjour Philippe.
Quelle voix, Philippe. Garou, on dirait Garou, rédacteur en chef à la chronique Agora. Non, c'est vrai, vous avez la voix grave, vous êtes enrhumé, je pense, non ?
Ouais,
sacré rhume, là.
Petite bronchite.
Bon, bon courage. Tiens, un continent qui semble sortir, lui, de sa bronchite, c'est peut-être le continent asiatique. On voit les marchés asiatiques progresser. C'est le cas de Hong Kong, qui a gagné ce matin 1%. La bourse de Tokyo a gagné également 1%. Ça veut dire que les marchés sont plus optimistes pour le continent asiatique, désormais ?
Difficile de le dire, il y a des éléments techniques, hein. C'est la fin du mois, on assiste souvent à des rachats. En ce qui concerne Tokyo, les 1% repris aujourd'hui, ça efface les 1% perdus la veille. Or, je me souviens qu'hier, la Banque Centrale Japonaise revoit assez fortement à la baisse ses prévisions de croissance sur l'exercice 2012-2013, puisque ça va d'avril à avril. On était parti sur une hypothèse de 2,3, on va être ou 2,2, on va être à 1,5 de croissance. Bon, dans l'histoire, c'est vrai qu'il y a quand même le différent diplomatico-commercial entre le Japon et la Chine, et les Chinois boycottent clairement, notamment les produits automobiles japonais. Donc là, on a un impact qui est évident. Est-ce qu'il sera durable ? Là aussi, ça va peut-être dépendre, eh ben, je sais pas, de choses comme, par exemple, des excuses japonaises pour des événements passés. Enfin, on sait que les Chinois continuent d'attendre ça.
Oui, fébrilement, impatiemment, voilà. Et tactiquement, c'est clair. Donc vous nous parlez là du Japon, auquel le Japon n'est pas du tout sorti du tunnel. Est-ce que le reste de l'Asie quand même a de meilleures perspectives ? On a vu des PMI manufacturiers en Chine s'améliorer, on a ce matin des statistiques assez encourageantes en Corée du Sud. Ah, c'est peut-être bon signe pour la suite quand même, non ?
Oui, la Corée du Sud, on sait très très bien que il y a deux secteurs qui ont été porteurs ou qui le restent. Alors, la Corée n'est pas touchée, hein, dans ses exportations d'automobiles vers la Chine. Je me souviens par exemple que les taxis de Pékin, c'est Hyundai qui les fournit, donc c'est des marchés énormes. Et puis il y a bien sûr l'électronique, les smartphones, avec les succès qu'on connaît de Samsung. Maintenant, la Chine, on sait que les chiffres sont à prendre vraiment avec beaucoup de précautions.
Enfin, les chiffres qu'on a là, c'est ceux dont je vous parle. L'amélioration de l'indice manufacturier, ce sont des chiffres HSBC, donc a priori plus fiables que les statistiques officielles de la Chine.
Ouais. Donc ça, effectivement, il peut y avoir eu. L'été était très mauvais, donc on peut avoir effectivement un petit rebond technique. L'autre souci, ce sont des banques chinoises qui annoncent des taux de créance douteuse extrêmement faibles. Or, on sait qu'on est certainement à des 20% de créance douteuse. Il suffit de voir la mortalité des PME en Chine cette année, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Ça se chiffre en dizaines de milliers d'entreprises hein, qui n'ont pas tenu le coup hein, avec le ralentissement des exportations. Donc, de gros doutes, effectivement, sur la santé des banques chinoises, peut-être plus que sur l'activité, parce que celle-là, on sait qu'elle est soutenue par le gouvernement et que bah, s'il faut créer 3000 km d'autoroute de plus, 2000 km de voies de TGV, on le fera.
Bon, doute en tout cas sur la Chine. Est-ce que la principale raison alors de cette hausse des marchés, c'est pas l'Europe? L'Europe qui va de moins en moins mal quand même.
Oui, voilà, on revient dans cette sémantique du moins pire. Alors l'Espagne.
Concours de laideur.
Voilà le concours de laideur. Bon, l'Espagne, on attendait -0,4, on a eu -0,3. Alors là, je me dis là vraiment, l'Espagne est un pays miraculeux. les dernières statistiques des ventes de détail, c'était -9% au mois de septembre en rythme annuel, -9%. Et avec une chute de cet ordre, on a un ralentissement de la récession. Moi, je trouve ça merveilleux. Moins les Espagnols consomment, plus l'économie repart. Et les banques espagnoles, plus elles passent de dépréciation sur leur portefeuille de créances immobilières, moins elles ont besoin d'argent. Je trouve ça merveilleux. Oui. 20% de baisse de l'immobilier mécaniquement, et ça, tout le monde peut vous confirmer ce calcul, 20% de baisse de l'immobilier, c'est 150 milliards de pertes pour les banques espagnoles. Mmh. Elles vont transmettre une partie de leur portefeuille à une bad bank avec des décotes allant de 45 à moins 65%. Et cette bad bank aurait besoin de 60 milliards d'euros. Enfin, on se fout du monde.
Donc vous n'êtes pas séduit par le dossier espagnol. N'empêche qu'il n'y a pas que l'Espagne. Il y a du mieux aussi en Italie, non?
Alors, l'Italie, là encore, c'est moins pire. Le ralentissement serait de -0,3. Là encore, je me demande où est-ce qu'on va pêcher les statistiques ou comment on les redresse, par quel biais on les manipule. Parce que c'est bien de parler de pays, etc., mais il faut y aller, il faut voir ce qui se passe sur place, ou faut avoir des correspondants en ligne qui vous disent, chez nous, c'est pas aussi merveilleux que ce que nous dit la presse allemande. En Italie, il y a un coup d'arrêt à la consommation qui est extrêmement fort. On n'en parle pas, parce qu'en ce moment, il n'est pas question de donner une seule mauvaise nouvelle. On est dans une espèce de printemps éternel. On a des lunettes roses chaque fois qu'il faut évoquer un pays qui est en difficulté, et on ne veut absolument pas parler de la réalité. Hein, la réalité, elle n'existe pas. C'est comme les États-Unis. Hein, le réchauffement climatique, il n'existe pas jusqu'au jour où on se retrouve avec de l'eau jusqu'à la ceinture dans les environs de Wall Street. Hein, voilà, arrive un cyclone et là ce jour-là, d'un seul coup, on est obligé de dire que les choses vont pas bien. Eh ben, les choses vont pas bien en Italie. Alors les chiffres, on leur fait dire absolument ce que l'on veut, mais je crois que la réalité, la vraie réalité de terrain, n'est pas du tout celle qu'on nous présente jour après jour et que la presse décrit. Parce que la presse, elle n'est pas là, effectivement, pour effrayer le lecteur, je pense.
Si on devait oser une image, Philippe, on peut dire que l'économie européenne, c'est un peu comme la ville de New York qui a subi Sandy, et puis après, il continue de pleuvoir, c'est quand même moins violent. On n'est plus dans Sandy, là, en Europe.
Alors, on est peut-être sorti de Sandy, mais enfin, si vous voulez rester dans la métaphore météorologique, l'hiver arrive. Moi, je me souviens que l'année dernière, le 30 et 31 octobre, la côte est américaine avait été paralysée, mais vraiment paralysée par une vague de froid dans le New Jersey. Il y avait eu des millions d'Américains privés de courant. On n'avait pas, évidemment, ce jour-là, arrêté les transactions à Wall Street. Donc, on ne peut pas prétendre en permanence que l'on va vers un printemps éternel. Ouais, on ne peut pas injecter en permanence des liquidités en disant que ça fera de la croissance quand on voit que sur 3 dollars injectés, on n'en a qu'un qui produit du PIB. Il y a un moment où il faudra reconnaître la réalité des choses. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on ne la reconnaît que lorsqu'elle nous tombe dessus. Et un marché, ça devrait théoriquement être fait pour anticiper.
C'est vrai.
Et c'est ce qu'il ne fait pas.
Il anticipe le printemps qu'il y aura après l'hiver. Peut-être. Philippe Béchade, merci beaucoup Philippe. On retrouve chaque mercredi avec grand plaisir. Un grand merci d'être venu d'ailleurs malgré votre bronchite. Vous êtes rédacteur en chef à la chronique Agora.
Et le CAC 40 garde un cap haussier, plus 0,4% à l'heure actuelle. Restez avec nous dans un instant. Le journal de l'écho. On retrouvera comme chaque demi-heure Magali Lacrosse. Et puis à suivre, place à vos placements et l'œil très affûté également de Roland Lasky. Et c'est Roland Lesquille qui est avec nous, comme chaque mercredi. Bonjour Roland.
Bonjour Cédric, bonjour Guillaume.
Bonjour Roland.
Rédacteur en chef de la lettre des placements. On va s'intéresser ensemble à la saison qui bat son plein, celle des trimestriels. Quel bilan on est, allez, à mi-parcours, un peu plus que mi-parcours du côté des États-Unis, on bat son plein en Europe. Quel bilan vous tirez des chiffres qui sont d'ores et déjà tombés? On est un peu en retard quand même, hein?
On est un peu en retard sur les
consensus. Ouais, non, je veux dire, oui. Il y a quand même de la déception par rapport à ce qu'on voit d'habitude.
Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, en tout cas, on sort de 9 trimestres de hausse des résultats. On a eu quelques déceptions, notamment sur les technos. Hein, on a eu on s'attendait à de bonnes nouvelles. Finalement, ça a été moins fort que prévu. Mais globalement, on a quand même l'impression que ces résultats se passent plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est difficile d'avoir une vision générale. On voit vraiment des titres qui surréagissent fortement à la hausse sur de bonnes nouvelles. On le voit ce matin sur Air France. Et on voit des surréactions à la baisse sur des déceptions. Nous, ça nous intéresse parce qu'on est vraiment à la déplacement des stock pickers et on aime bien travailler valeur par valeur. Dans l'ensemble, globalement, en tout cas sur la Bourse de Paris, les résultats sont assez bons. On était très inquiets, encore plus que pour les États-Unis parce que là, on est vraiment dans une situation plus difficile en Europe. Finalement, il y a un clivage assez classique hein, entre les sociétés qui sont concernées, qui sont prises même par les difficultés conjoncturelles en Europe. On va pas revenir sur Peugeot, sur France Télécom, mais on l'a vu ce matin sur Suez, sur GDF Suez, sur Vinci, donc toutes ces sociétés qui sont quand même très présentes en Europe, même Danone qui est présente à l'export mais qui souffre beaucoup sur les pays du Sud. Je crois que Schneider Electric a également souffert, hein, ce qui va pas très bien, c'est la partie européenne de leurs activités. Donc ça, c'est la partie un petit peu souffrante de la cote et des résultats. Et à côté de ça, bon, on voit de très très belles choses du côté des sociétés qui sont plus présentes en grand export. Hein, on en a parlé.
Bien vous comprendre, Roland, ça veut dire qu'aujourd'hui, vu le contexte, il faut, vous disiez, on est des stock pickers, il faut revenir à l'analyse fondamentale, à regarder vraiment entreprise par entreprise le core business du groupe et son positionnement.
Ça, c'est un point important. On peut recommencer à venir sur le... Enfin, nous, on l'a jamais quitté, mais la bourse peut recommencer à revenir sur le fondamental. Depuis le début de la crise des subprimes et ensuite, surtout, la crise de la zone euro, on avait vraiment un marché qui était totalement dirigé par des incertitudes économiques, politiques. Hein, on avait du bon sur les sociétés, mais ça se voyait pas tellement. Là, on a peut-être un climat qui est pacifié, un petit peu plus de visibilité, un petit peu plus de calme sur l'économie, sur les décisions politiques en Europe qui commencent à aller dans le bon sens. Effectivement, on peut revenir sur le fondamental et travailler sur les valeurs, sur les résultats, mais également sur les perspectives d'activité et sur les bilans. C'est vraiment le travail quotidien, ce qu'on aime bien faire hein, tous en bourse, c'est travailler les comptes d'exploitation, les bilans, et là on peut trouver de bonnes idées d'investissement.
Un petit mot aussi d'autres sujets, entre guillemets. Si on essaye de construire, une fois qu'on s'est dit tout ça, une stratégie d'investissement, est-ce qu'il y a une petite sélection de titres que vous pouvez nous proposer ce matin ?
Alors, la sélection de titres, on va aller dans deux sens. Il faut être un petit peu offensif aujourd'hui. Et par exemple, du côté des valeurs financières, on a vu du côté d'AXA une très très bonne capacité de résistance de l'activité, mais surtout des résultats. On voit également de fortes décotes. Donc on est assez présent, on revient sur les valeurs financières, BNP Paribas, AXA, peut-être à titre plus spéculatif sur Crédit Agricole, donc une partie un petit peu offensive sur les
portefeuilles. Pourtant, on a quand même vu aussi des difficultés du côté bancaire. Il y a deux jours, UBS qui nous avoue une suppression de 10 000 emplois et probablement une sortie de l'obligataire. Parallèlement, Deutsche Bank qui, justement, va tirer des activités de marché quelque chose de fabuleux. C'est un petit peu la bouteille à moitié pleine, la bouteille à moitié vide, non ?
Alors, il y a encore beaucoup de difficultés, des licenciements, UBS, etc. Mais heureusement, ce qui fait aujourd'hui, ce qui fait l'évolution des cours des banques, c'est surtout leur l'énorme décote et leur chance de réduire la décote qui leur a été imposée par le manque de visibilité sur l'Europe. Et là, sur les banques, on joue plutôt le retour à une décote moins forte, et avec d'ailleurs pour BNP Paribas, pour AXA, des résultats qui eux aussi d'ailleurs sont assez bons. Donc ça c'est la partie un petit peu spéculative, un petit peu active en bourse. Et pour le reste, eh bien il faut, c'est pas très original, mais rester hein, sur les belles grandes valeurs internationales. Essilor, oui. Encore qu'Essilor a quand même beaucoup monté, mais rester sur des choses, par exemple comme ce matin on parlait récemment d'Air Liquide. Air Liquide a connu un petit creux. On peut revenir sur ce titre. Danone a connu également un creux justement à cause de l'Europe du Sud. On peut revenir sur cette valeur. Peut-être des titres comme je regarde ma liste, on est très présent également sur des choses comme Dior, on est fortement à l'achat sur Dior.
En plus, il y a une rumeur aujourd'hui sur Christian Dior, rumeur selon laquelle LVMH pourrait racheter les minoritaires et Christian Dior gagne 3,5% en bourse.
Vous voyez. Alors c'est bien, c'est une rumeur qui a 20 ans, donc...
C'est vraiment retour du serpent de mer, hein, clairement.
Non mais ceci dit, c'est vrai que la décote sur Dior s'est fortement creusée de nouveau, et donc c'est pas exclu. Je sais pas si l'opération va se faire, mais en tout cas Dior est une belle société en tant que telle, et surtout la décote est tout à fait importante. Également Michelin, on est assez présent sur Michelin. On a une petite déception sur Publicis à cause d'un coup de mou là sur le marché européen. On peut également revenir sur Publicis.
Est-ce que vous êtes acheteur du secteur aérien? On voit ce matin Air France KLM s'envoler, de 7,5% après sa publication. Lufthansa aussi gagne plus de 6% à Francfort. Ça vous donne envie d'acheter les compagnies aériennes?
Alors, on avait conseillé d'acheter Air France avant la baisse, donc en fait on était un peu coincé sur ce titre. Donc le bon conseil qu'on a donné, c'est de tenir la position. C'est pas très brillant, mais en tout cas on n'a pas cédé à la panique. On aurait pu faire vendre à 3,50 € là durant l'été. On a eu une attitude plutôt spéculative. On a joué un rebond, on a espéré un rebond. Il se présente aujourd'hui. On peut peut-être viser les 10 €, mais ça va être beaucoup plus difficile d'aller au-delà.
On est à 6,40 sur Air France KLM ce matin.
Il nous reste une minute trente pour regarder et maintenant, parce qu'on a vu tout ce que vous nous avez dit sur les résultats, la stratégie qu'on peut construire. Est-ce que on peut imaginer qu'avec les valorisations qui restent quand même plutôt basses, on puisse avoir des opérations financières? On en voit quelques-unes. Est-ce que ça peut continuer? Est-ce que ça peut s'amplifier, des OPA?
Alors, des OPA, on en a une hier, un projet d'OPA sur Thermo Compact, qui est une belle petite société qui a toutes les qualités, sauf qu'elle a des transactions très très faibles, et donc une société qui est totalement oubliée par les gestionnaires. Il y a une prime de 19%. On devrait voir sur de nombreuses valeurs moyennes, effectivement, un retour des OPA, des rachats minoritaires, soit par des actionnaires familiaux, comme c'est le cas pour Thermo Compact, ou bien pour des sociétés concurrentes qui vont venir faire leur marché dans la côte. On l'a vu avec Lagardère, Le Guide, on l'a vu également dans la pharmacie. Donc on peut imaginer effectivement un retour des opérations financières sur les valeurs moyennes.
Et sur les grandes valeurs, parce qu'on a Peugeot par exemple qui est, enfin je ne sais pas si c'est encore une grande valeur d'ailleurs, Peugeot est sous les 5 € aujourd'hui, à 4,93 €. Est-ce que ça n'en fait pas une proie?
Alors moi je voyais plutôt le côté positif de la force des belles sociétés qui sont décotées. Oui, Peugeot c'est une proie, c'est plutôt une valeur à sauver. On pourra peut-être sauver la marque, on pourra peut-être sauver les voitures, mais là, je pense que l'actionnaire aura du mal à se sauver. S'il y a une opération de sauvetage, elle sera plus industrielle, peut-être avec General Motors. Je pense que pour les actionnaires, il n'y a pas beaucoup d'espoir sur Peugeot. Jojo, et des grandes OPA, en revanche, ça paraît un petit peu compliqué parce que généralement, on a des grandes OPA quand on est en forte croissance. Hein, le directeur général présente un projet au conseil d'administration, ça rassure tout le monde est content de faire des grandes opérations. Aujourd'hui, on est plutôt dans une conjoncture de faible croissance. Il ne faut pas compter peut-être sur un retour des grandes OPA, mais justement, sur de façon ponctuelle, sur des valeurs moyennes très décotées.
Roland Laskin, la lettre des placements. Vous restez avec nous, Roland. D'ici un quart d'heure, on répond à toutes vos questions, celles que vous nous envoyez, par exemple, en nous suivant sur les réseaux sociaux. Inté Placement avec un sale à fin.
Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Allez, tout de suite, des conseils encore plus originaux pour vous aider à gagner plus d'argent. Une idée de placement pas comme les autres. Vous pouvez, pourquoi pas, placer votre argent dans la truffe. Oui, investir sur le marché de la truffe, ça rapporte, c'est facile et ça rapporte beaucoup d'argent. On en parle avec Marc Giraud. Bonjour Marc.
Bonjour Guillaume. Alors,
vous n'êtes pas une truffe, Marc. Non, vous n'êtes pas une truffe, Marc. Vous êtes gérant chez HMG Finance, un véritable expert et on connaît la qualité de vos conseils. Vous allez nous dire pourquoi investir dans la truffe peut rapporter gros. D'abord, c'est quoi la truffe ?
La truffe, c'est un champignon souterrain, ou plutôt c'est la fructification elle-même souterraine d'un champignon souterrain. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit facilement. Un cèpe, par exemple, c'est la fructification aérienne d'un champignon souterrain. La truffe, tout reste en dessous de la terre, et c'est un champignon qui vit en symbiose avec les racines d'un arbre qui le porte en quelque sorte.
La truffe la plus connue, c'est la truffe de Bourgogne, c'est ça ?
Alors la plus répandue, c'est la truffe de Bourgogne, la reine des truffes, c'est la truffe noire du Périgord, Tuber melanosporum. Mais on a toutes sortes de truffes, on a une trentaine de variétés de truffes, on a la truffe blanche d'Albe pour nos amis italiens, il y en a certainement qui nous écoutent aujourd'hui, qui est extrêmement réputée en Italie, pas tellement connue en France, et qu'il ne faut surtout pas confondre avec la truffe blanche d'été qu'on trouve en France par exemple, et qui est beaucoup moins cotée.
Et comment devient-on trufficulteur, producteur de truffes ?
Alors on peut, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on parle de la truffe aujourd'hui ? Pour dire qu'on peut très bien faire son retour à la terre et qu'on n'est pas obligé de vivre misérablement en trayant des chèvres à la main. On peut aussi gagner de l'argent en faisant son retour à la terre. Donc devenir trufficulteur, soit on a un terrain qui convient, il faut commencer par le terrain. Le terrain, ouais. C'est le support de la production. Ouais. Soit on a un terrain qui convient, soit on n'a pas de terrain. Dans ce cas, il faut acheter un terrain, il faut trouver un terrain.
Et alors, c'est quoi un terrain qui convient ?
Un terrain qui convient, curieusement, on en trouve un peu partout en France. Il faut savoir que la truffe, elle a d'abord besoin d'un sol basique et non acide, c'est-à-dire un pH suivant les espèces de truffes supérieur à 6,5 ou 7,5. Pour la truffe noire du Périgord, c'est un pH supérieur à 7,5. Ça, c'est la première chose. Sans ça, on peut rien faire. Mais ça couvre quand même une très large zone d'intervention, puisque ça n'exclut que des régions relativement marginales, que ceux qui sont de ces régions me pardonnent, mais le Cotentin, les Vosges, des grandes parties du Massif central, certes, la Bretagne, etc. Mais dans tout le reste de la France, on peut trouver des terrains qui conviennent. Donc un pH supérieur à 6,5 pour la truffe de Bourgogne, supérieur à 7,5 pour la truffe noire du Périgord. Ensuite, il faut un sol avec une structure plutôt grossière. Il faut que l'air, que l'eau puisse circuler. L'argile, ça va pas du tout. On comprend tout de suite que la truffe, elle aura pas de place pour grandir dans un sol argileux. Et finalement, il faut un sol plutôt bien exposé, c'est-à-dire sud, sud-ouest, ouest. Et ça n'a pas besoin d'être un sol fertile. On peut très bien acheter une ancienne olivraie abandonnée, une ancienne vigne abandonnée, une prairie, un plateau un peu caillouteux. Tout ça, ça convient potentiellement si le pH est bon et si la structure du sol est bonne.
Et les truffes, pour pousser, elles ont besoin d'arbres ?
Elles ont besoin d'arbres.
Quels arbres ?
Ça peut être toutes sortes d'arbres. Généralement, c'est on utilise le chêne vert ou on utilise le chêne pubescent, mais ça peut aussi être le noisetier, ça peut être éventuellement des hêtres ou des charmes. Il faut se méfier là d'une idée qui va vous venir certainement à l'esprit, qui est que il ne faut pas planter des arbres truffiers sur un sol déjà forestier.
Ah bon ?
Parce qu'un sol forestier est déjà infesté de toutes sortes de champignons, parfois bons, parfois pas bons, mais qui vont faire une concurrence féroce à la truffe. Donc il faut un sol où il n'y a pas de champignons, donc a priori pas d'arbres pour commencer.
D'accord. Donc il faut acheter les arbres chez le pépiniériste et les planter sur un terrain où il n'y a pas d'arbres.
On va chez un pépiniériste, on va acheter des arbres inoculés avec la truffe, on dit mycorhizés. L'INRA en France a, avec beaucoup de succès, inventé un système qu'il a ensuite cédé en concession à ce nombre de pépiniéristes. Et on peut acheter chez des pépiniéristes sérieux des arbres truffiers. Ça coûte entre 15 et 20 euros l'arbre.
Oui, c'est pas cher.
C'est pas cher du tout. Alors, il faut se méfier de beaucoup d'offres qu'on a sur Internet avec des arbres à 150, 200, 300 euros. C'est pas la peine de payer autant que ça. Oui. On peut très bien, à 15, 20 euros, acheter un arbre certifié INRA qui portera la truffe, si vous voulez.
Alors, une fois qu'on a trouvé le terrain, une fois qu'on a trouvé son arbre, pas cher en plus, puisque ça coûte pas cher, on est dans l'intégral placement. Quel rendement peut-on attendre quand on se met à produire des truffes? Quel rendement financier, finalement?
Alors, il faut bien se dire que c'est un rendement assez aléatoire, puisqu'il y a des bonnes années et des mauvaises années. Mais surtout, on n'est jamais sûr de la réussite. Et non seulement on n'est jamais sûr de la réussite, mais en plus, la réussite ne vient jamais tout de suite, puisqu'il y a une période de latence de 5 à 10 ans pendant laquelle la truffe va s'installer dans le sol. Ça, il faut l'admettre. Donc, je recommande deux choses pour ceux que ça intéresserait. La première, c'est d'abord de s'inscrire dans une association de trufficulteurs. Il y en a dans beaucoup de régions françaises, qui permettra d'éviter les erreurs les plus manifestes. Et puis ensuite, c'est de commencer petit. Sur 400 mètres carrés, vous mettez 20 arbres. Ça vous coûte 400 euros d'investissement. Oui. Vous protégez bien ces arbres contre la dent du lapin, contre la corne du chevreuil. Vous les arrosez en été pour être sûr qu'ils reprennent. Alors ça, c'est des arbres qu'on plante en novembre. Hein. La récolte de la truffe, il faut savoir, ça se fait généralement en décembre.
D'accord.
Sauf pour la truffe d'été, bien sûr.
Et les arbres, on les plante en novembre?
On les plante en novembre, ils ont le temps de s'installer. L'été suivant ou pendant deux étés, on les arrose pour éviter qu'ils crèvent. Et puis, avec un petit peu de chance, quelques années plus tard, on verra apparaître en dessous des arbres ce qu'on appelle le brûlé. Le brûlé, c'est le signe que le champignon est actif en dessous de l'arbre et qu'il fait une concurrence sévère à la végétation superficielle. Et c'est le signe qu'un jour, on aura probablement des truffes.
Alors, on va reprendre juste en quelques secondes le calcul pour arriver à la rentabilité
finale.
Ah
oui, pardon, poète, là, pas... j'oubliais.
Non, mais c'est vachement intéressant aussi, mais je suis désolé, on revient aux chiffres. Le terrain, on met combien?
Le terrain, c'est 1 000 à 3 000 euros l'hectare. Donc,
sur un hectare, vous nous avez dit 400 euros d'arbres, c'est ça?
Alors, sur un hectare, non, on mettra plutôt 1 000 euros d'arbres.
Bon, 1 000 euros d'arbres,
un peu
allons-y.
Plus. 1 000 euros d'arbres, chaque arbre va nous faire à peu près, si tout va bien, mais sans non plus être exagérément optimiste, 20 grammes par an. La truffe noire du Périgord, ça vaut 1 000 euros le kilo. Donc 20 grammes, c'est 20 euros. Si, vous voyez tout de suite que la récolte d'un arbre au bout de 5 ans ou 7 ans ou 10 ans, ça paye l'achat de l'arbre initialement. Et ensuite, tous les ans, si vous avez la même récolte, ben vous avez remboursé tous les ans votre investissement. 100% de rentabilité annuelle, si vous voulez, au bout de 5 à 10 ans, si ça a marché à peu près correctement.
Ça a marché à peu près.
Est-ce qu'on a suffisamment parler d'argent pour vous?
Oui. Donc, non, mais c'est vrai, il y a peu d'investissements de placement aussi rentables, 100% par an.
Oui, mais avec beaucoup d'aléas. Donc, oui. Surtout qu'on ne vienne pas se plaindre ensuite que des gens ont perdu leur héritage dans la culture de la truffe parce qu'ils m'ont entendu dans votre émission.
Donc, on résume, hein, Marc, les truffes rapportent gros, 100% par an, avec un coût d'investissement minime, 12 à 20 euros par arbre truffier. Pourquoi pas donc finalement acheter ces arbres? C'est facile et ça ne nécessite pas de grosses surfaces. Donc tout le monde peut le faire.
On peut faire ça dans sa maison de campagne, en Provence par exemple, sur une terrasse en arrière de la maison. Enfin, c'est très facile, ça coûte pas grand-chose, ça demande peu d'entretien et au bout de quelques années, on peut avoir de bonnes surprises.
La truffe, la solution anti-crise de Marc Giraud. Merci Marc. On se retrouve tout à l'heure, Marc, pour des actions, des valeurs sur le marché financier que vous allez nous conseiller d'acheter.
Avec plaisir.
Le CAC 40 gagne 0,38% et nous, on continue à vous donner des conseils.
Jusqu'à 12h30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business.
Et quelques idées de fonds à présent avec Mara Dobrescu. Bonjour Mara.
Bonjour.
Vous êtes analyste de fonds chez Morningstar et ce matin, vous évoquez le fonds Sparinvest SICAV Global Value.
Oui, tout à fait. Donc c'est un fonds pour s'exposer aux actions internationales avec un style value. L'idée ici, c'est de comparer la valeur intrinsèque d'une société à son cours de bourse et d'investir là où la marge de sûreté est suffisante pour protéger du risque de baisse. Donc une fois qu'on a dit ça, bon, c'est l'objectif de bon nombre de gérants. Mais encore faut-il être capable d'identifier les raisons derrière cette décote pour ne pas tomber dans des value traps. Et c'est l'ambition de ce fonds proposé par Sparinvest, qui est une maison de gestion basée au Danemark.
Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement cette société Sparinvest? Parce que depuis le Danemark, elle n'est pas très connue en France.
Oui, non, c'est vrai, elle n'est pas très connue en France. Bah, c'est une maison qui a fait du style value son cœur de métier. Et on aime plusieurs choses sur cette société, notamment le fait que les bonus des gérants soient partiellement liés à la performance des fonds gérés sur 1, 3 et 5 ans par rapport aux fonds concurrents. Et ces bonus ne sont d'ailleurs versés qu'en cas de performance positive. Et puis, c'est une société qui fait aussi preuve d'une bonne transparence avec des commentaires de gestion au-dessus des pratiques de l'industrie. Et un mot aussi sur le gérant de ce fonds. Jens Rasmussen qui gère la stratégie depuis 2001, accompagné de 8 autres gérants. Ce qu'on aime aussi, c'est qu'il était précédemment responsable des investissements, donc CIO de la société, mais il a décidé de se retirer de ses responsabilités managériales pour se consacrer entièrement à ce fonds, ce qui est toujours bien pour les investisseurs.
Si on se penche justement sur Socicav Global Value, un petit mot de l'approche mise en œuvre.
Ici, on a une équipe qui met en œuvre une analyse fondamentale très poussée des titres. Il décortique les bilans, il cherche à établir pour chaque société son degré d'earnings power, donc sa capacité à générer des bénéfices sur le long terme. C'est sur cela qu'ils vont se baser pour bâtir leur estimation de la valeur intrinsèque du titre. Après, pour investir, ils vont avoir besoin d'une décote d'au moins 40%, ce qui permet de constituer une marge de sûreté. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au final, le portefeuille peut afficher un profil assez contrariant. Donc, le gérant n'hésite pas à aller sur des titres qui sont mal aimés par le marché, comme Peugeot, Nokia, UPM en Finlande. Ils sont aussi prêts à attendre 3 à 5 ans pour que le titre atteigne sa cible de cours. Donc, ça engendre un taux de rotation peu élevé pour le portefeuille.
Au final, est-ce que ce fonds affiche de bons résultats, est-ce que vous lui donnez une bonne note ?
Au final, ce qu'on voit, c'est que le fonds a surperformé ses concurrents depuis son lancement en 2001. Mais attention, certaines configurations de marché ne sont pas forcément favorables au style value, comme c'était le cas en 2011 notamment. Donc, il n'est pas à l'abri de périodes difficiles. Mais nous pensons qu'il continue à avoir les atouts pour surperformer sur le long terme. Il est noté bronze.
Et bien voilà, on rappelle le nom de ce fonds, Mara, le Spar Invest Socicav Global Value. Merci beaucoup, Mara Dobrychko, analyse de fonds donc chez Morningstar.
Restez avec nous dans Intégral Placement dans un instant. On va répondre à toutes vos questions. Questions sur votre argent, toutes les questions que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com. Roland Laskin sera là pour y apporter donc des réponses très concrètes. A tout de suite.